Bonjour à tous, bon après-midi. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de cette journée, en particulier Aladine et Gilles, de m'avoir invité à faire cette présentation. Alors, mes planches sont en anglais. Je suis désolée, mais je vais parler en français. Donc moi, je suis Valérie Gouet-Brunet. Je suis qui est en laboratoire rattachée à l'université Gustave Eiffel, mais aussi rattachée à l'Institut géographique national ou l'Institut national de l'information géographique et forestière, et à l'école aussi d'ingénieurs qui s'appelle désormais Géodata Paris, mais peut-être que vous la connaissez plutôt sous le nom de l'UNSG. Le nom vient de changer. Et donc moi, mes travaux de recherche portent sur l'analyse et l'indexation d'images en 2D et en 3D dans les grandes collections iconographiques. Donc cet après-midi, j'ai fait une sélection de nos travaux sur les données iconographiques patrimoniales et je vais vous en présenter donc une partie. Le titre de la présentation, c'est « La documentation du territoire avec du patrimoine, des collections patrimoniales iconographiques orientées vers le territoire donc, que j'ai appelé géographique ». Donc qu'est-ce que j'entends par patrimoine iconographique géographique ? C'est l'ensemble de toutes les sources visuelles, ça peut être des photographies, des gravures, des cartes, des plans, des vidéos comme on le voit ici. On peut même aller jusqu'à une numérisation 3D d'un quartier, d'une zone, d'un monument par structure from motion, photogrammétrie ou par acquisition LIDAR. Et toutes ces sources visuelles, elles décrivent ou elles documentent une zone géographique, plus génériquement le territoire et son évolution, puisque qui dit patrimoine dit acquisition à des périodes temporelles différentes. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce type de contenu ? C'est un témoignage riche de notre territoire et de son évolution, à la fois d'un point de vue spatial et d'un point de vue temporel. En ayant un peu expertisé, regardé tout ce qu'il existait au moins sur le territoire français, on a une grande couverture spatiale et temporelle de tous ces documents, à la fois à l'échelle du territoire et à la fois à l'échelle temporelle. Ici, à droite, vous avez une illustration de tout ce qu'on peut faire en termes de campagne d'acquisition de l'IGN, mais ce n'est pas forcément à ces images-là que je me référerai. Je ferai plutôt référence, pour partie dans l'exposé, à des collections iconographiques, si elles sont aériennes, obliques, qui montrent le territoire de manière oblique ou même terrestre. Alors, de nombreux, je vous apprends rien, de nombreux domaines peuvent être impactés, les recherches en sciences humaines et sociales, tous les aspects conservation, cartographie environnementale, urbanisme, tourisme, éducation, etc. etc. Les institutions qui abritent ces collections, elles sont extrêmement nombreuses à l'échelle nationale comme à l'échelle départementale, surtout à l'échelle départementale, les GLAM, Libraries, Archives and Museums, et évidemment les agences de cartographie. La politique d'ouverture en open data, notamment par le biais de ces institutions, les rend de plus en plus disponibles. Il est de plus en plus disponible, en tapant quelques mots sur Internet, d'avoir accès à ces collections avec des usages plus ou moins réglementé, mais il est tout à fait possible d'avoir accès à ces ensembles de collections. Quelles sont leurs principales caractéristiques ? Ici, j'entends d'un point de vue plutôt scientifique. Les contenus sont extrêmement variés, comme vous l'imaginez. Ce sont des collections donc, au contenu hétérogène, qui sont multivues, donc qui montrent le territoire avec des points de vue très différents, qui sont multisources. Si je prends simplement une photographie qui a été acquise avec tel appareil n'aura pas du tout le même rendu avec un autre appareil, encore moins évidemment si ce sont des gravures ou des peintures. Les métadonnées qui leur sont généralement associées lorsqu'elles existent sont de qualité extrêmement variable et surtout les standards sont très différents. Une collection iconographique qui illustre une zone géographique dans tel musée ne sera peut-être pas décrite avec les mêmes standards dans un autre musée. Donc, il est difficile de faire, il peut être difficile de faire dialoguer ces collections. Donc, c'est ce que j'ai un peu dit là. Ces collections sont en silo dans les institutions. Et le standard des métadonnées, ou la nature des métadonnées, hein, les métadonnées de l'IGN, par exemple, ne vont pas du tout être de même nature que des métadonnées dans un musée ou aux archives nationales. En plus, en termes de challenge scientifique, en général, on l'a compris à travers tous les exposés depuis ce matin, ce sont des données qui disposent généralement de peu de données d'entraînement. Sur les algorithmes, les solutions de description d'images sur lesquelles on travaille, les algorithmes par apprentissage profond sont au mieux appris sur Google Landmark, donc qui est quand même, c'est pas rien, hein, ce sont des datasets qui représentent des millions de jeux de données, mais qui ne sont pas toujours, bien évidemment, adaptés à ce qu'on veut faire. Donc, on a un problème aussi de low data training, comme on le dirait en anglais. Alors, je vais faire un très bref état de l'art sur la façon dont on peut collecter, structurer, organiser, visualiser ces collections iconographiques, géographiques. Bien évidemment, on va commencer historiquement par les organiser, être capable de les requêter par le biais de métadonnées. Alors, ces métadonnées, ça peut être du texte. Je prends là, par exemple la base que vous connaissez certainement, le site web Europeana, qui agrège un grand nombre de collections iconographiques et pas que. On peut aussi aller un peu plus loin, construire des graphes de métadonnées pour avoir une représentation beaucoup plus complète. Vous avez par exemple l'outil OranceFine aussi qui permet de visualiser ces représentations plus complexes. On a parlé à de multiples reprises de la BNF. Vous avez par exemple l'outil Gaïka Pix de la BNF qui permet de faire de la recherche, de l'interrogation à partir de métadonnées dont certaines ont potentiellement été enrichies avec de l'intelligence artificielle par de l'annotation automatique ou de la propagation de métadonnées. Donc ça, ce ne sont que quelques exemples. On va aussi pouvoir, un peu plus récemment, dans les années 90, est apparu le paradigme, on va dire, une sous-branche de la vision par ordinateur, de l'analyse d'images. Le paradigme de l'indexation par contenu visuel, l'acronyme en anglais c'est CBIR, Content Based Image Retrieval, j'ai quelques slides qui vous réexpliquent un petit peu les rudiments de ce genre d'approche. À gauche, vous avez une image en entrée. Selon la tâche envisagée, on va extraire des caractéristiques visuelles, des informations de cette image. Aujourd'hui, évidemment, on le fait la plupart du temps avec des techniques d'IA. Ça va nous donner un ensemble de descriptions. Et ensuite, ces descriptions vont être encapsulées, pour faire simple, dans un vecteur multidimensionnel qui va servir d'index de représentation de l'image dans la collection. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver cette image ou des images similaires dans la collection en comparant ces index multidimensionnels. Un tout petit peu différemment, ça c'était une version où on a un index par image. Alors dans l'image de gauche, on a un certain nombre de points d'intérêt qui ont été extraits automatiquement par des méthodes d'analyse ou d'apprentissage. Ces objets-là, on va les représenter dans un espace unidimensionnel, un espace caractéristique. On va faire de même avec d'autres images et on espère, si la technique de description employée n'est pas trop mauvaise, on espère que ces descripteurs vont se retrouver au même endroit dans cet espace multidimensionnel, de manière à être capable de dire finalement que ces deux images, selon les critères de description choisis, que ces deux images se ressemblent et représentent le même objet ici, un même monument. Donc ce genre de technique existe depuis les années 90 et a été généralisé à des grands ensembles de collection, et c'est cet outil en particulier que vous allez retrouver, vous connaissez tous Google Images, vous donnez en entrée au système une image ou une partie d'image, et le système vous donne par ordre décroissant de similarité des images qui correspondent. Les techniques de description utilisées derrière sont assez obscures, mais voilà, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir retrouver. Vous avez aussi une autre variante de Gallica, Gallica Snoop, qui vous permet de faire la même chose, notamment sur les collections de la BNF. Et puis, les similarités, les liens qu'on va tisser par similarité avec ces images-là, peuvent être aussi visualisés. Et dans un espace comme ça, ici, qui est tridimensionnel, on va pouvoir naviguer dans la collection en fonction des similarités visuelles qui sont tissées entre les collections iconographiques. Voilà, si je continue sur mon état de l'art. Alors, il y a une trentaine d'années, le tournant spatial, les gens commençaient, en particulier les historiens, ont commencé à se dire, on va essayer de positionner nos données iconographiques, entre autres, pas que iconographiques, sur des cartes, de manière à voir, à fournir un point d'entrée de la visualisation et de l'interrogation de ces collections par le biais du spatial. Et aussi, c'est une façon évidemment d'avoir une idée de leur distribution. Donc les outils sont extrêmement nombreux. Ça peut être des agrégateurs qui sont collaboratifs parce que vous allez fournir vous-même l'endroit où se trouve, auquel état vous allez associer votre contenu iconographique. Ça peut être institutionnel, la plupart du temps c'est institutionnel, donc c'est l'institution qui, à partir des métadonnées dont elle dispose, va associer un positionnement spatial à ses collections. Ça peut être aussi, ça peut être aussi thématique sur ce dernier ici. Le site web qui est un agrégateur qui va chercher un petit peu partout sur Internet des collections iconographiques qui sont censées être du domaine public. Je dis bien censées parce qu'à chaque fois qu'on retrouve quelque chose, il faut quand même bien vérifier. C'est un agrégateur automatique. Il faut vérifier que ça correspond bien à du domaine public. Alors la question évidemment qui se pose ici, qui va m'intéresser dans cette présentation, c'est comment est-ce qu'on spatialise ces collections iconographique. Bon, évidemment, la façon la plus simple, la plus ancienne de le faire, c'est de le faire manuellement. Si vous disposez de toponymes, d'une information de description de votre image, d'une adresse, bah, éventuellement, avec un algorithme, un outil de géocodage, vous pouvez transformer ce type de métadonnées en une position sur la carte qui va vous permettre de positionner un petit pin, comme on l'a vu sur la planche précédente. Ça peut être fait, donc je l'ai dit, de manière collaborative, avec des outils où l'utilisateur lui-même va positionner l'image sur la carte. Un peu plus subtilement, ça peut être fait de manière semi-automatique. Et en particulier, on commence à se tourner vers des outils semi-automatiques, voire automatiques, quand on s'intéresse, quand on veut avoir plus qu'une position spatiale sur la carte, mais qu'on veut avoir une position en 3D, voire une orientation. Position-orientation, ça fait 6 degrés de liberté, ce qu'on appelle une pose. Et en général, on commence à se tourner vers des outils de vision par ordinateur ou de photogrammétrie pour faire ça. En version semi-automatique, pardon, vous avez un exemple ici. Ou dans l'exemple de gauche, sur l'image en 2D qu'on veut positionner, on positionne à la main un certain nombre de points, les petits points verts ici, et on positionne leurs correspondants dans la 3D, ce qui suppose que vous ayez accès à un outil de visualisation et de navigation dans la 3D. Ici, c'est le géoportail 3D de l'IGN. Une fois que vous avez bâti ces correspondances en vert et en orange à la main, ben on utilise des outils de calcul, d'estimation de la pose, de manière à repositionner l'image en 3D dans la scène. Et là, donc, on voit l'image du point de vue de la caméra. Donc, évidemment, j'ai choisi une image où on a une belle estimation de la pose, donc une belle superposition avec la scène tridimensionnelle. De manière un peu plus automatique, encore plus, on peut utiliser des algorithmes qui passent par la recherche d'images similaires. Donc on va commencer par amener des images similaires. Ces images similaires, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut qu'elles soient géolocalisées. Ça veut dire que si ces images sont géolocalisées, on a accès à un certain nombre de poses, mettons N poses. Et à partir de ces N poses, on va utiliser là encore des algorithmes de vision par ordinateur, de photogrammétrie, pour estimer la pose de l'image qu'on a en requête. Donc, en général, on passe par la recherche d'images. Il y a une variante aussi, mais qui passe moins à l'échelle, qui n'est pas encore valable, selon moi, sur des grandes couvertures de zones à géolocaliser, qui permet de passer par une régression de pose, c'est-à-dire l'estimation directe de la pose, souvent par apprentissage aujourd'hui, à partir d'une image donnée en entrée. Donc voilà, toutes ces problématiques existent. Moi, je vais me concentrer dans la présentation sur le côté recherche d'images similaires, avec un petit peu d'estimation de la pose derrière, pour justement être en mesure de positionner ces collections iconographiques dans le territoire qu'elles viennent décrire. Alors, pour finir, la pose, au départ, elle était 2D. Iconographie. Et puis, plus récemment, on a vu apparaître tout un tas d'outils divers et variés qui permettent de naviguer, d'intégrer des sortes, on pourrait parler, je ne sais pas, mots numériques, qui permettent de, dans une scène tridimensionnelle, bien sûr, pour les restituer dans leur contexte et mettre à jour ou documenter la zone géographique. Donc, vous avez tout un tas d'outils qui sont dédiés à des zones en particulier. Par exemple, ici à gauche, vous avez la Suisse. Ici, vous avez des zones, une ville en Allemagne qui a été comme ça modélisée très finement en 3D et dans laquelle on est venu recaler tout un tas de collections iconographiques. En haut, au milieu, vous avez Aioli, que vous connaissez peut-être pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, qui est le système d'intégration développé par le MAP à Marseille, l'équipe de Livio De Luca, pour justement l'intégration de données multimodales dans des environnements architecturaux. Vous avez un autre outil en bas à droite qui est UDVIS, qui est développé par le LIRIS à Lyon et qui a l'avantage d'être un outil entièrement reproductible. C'est vraiment de la science ouverte, l'idée de pouvoir s'approprier cet outil et l'utiliser pour ses propres, pour d'autres usages. Et là encore, vous avez une scène 3D avec différents types de numérisation, de modélisation possible, dans laquelle on peut venir recaler des images. Bon, c'est un échantillon de tout ce qui existe, bien sûr. Alors, quelles sont les contributions dont je vais vous parler ? Il s'agit ici de discuter quelques solutions qui apportent de la structure dans une collection ou entre collections, et notamment en construisant des liens entre ces collections. Et on de ces contenus de manière à mieux accéder, naviguer, visualiser ces collections, leurs structures dans un contexte spatial. Vous aurez compris, les méthodos qui sont derrière sont des méthodologies de vision par ordinateur, d'apprentissage, de recherche d'informations et aussi de multimédia, puisqu'il est question aussi de multimodalités. J'ai à peu près dit tout ça. Ces travaux ont été réalisés à travers plusieurs projets, notamment Allegoria, Gap, OnStage 3D avec la ville de Paris, le chantier numérique de restauration de Notre-Dame de Paris. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a travaillé à trois échelles d'observation au niveau aérien, donc au niveau du paysage, avec des vues plutôt obliques aériennes, pas verticales. Au niveau avec la ville de Paris, avec les collections de la ville, au niveau à l'échelle de la rue, et au niveau aussi du monument, donc le monument étant ici Notre-Dame de Paris, avec des vues intérieures et des vues extérieures. Donc tout ça, évidemment, un travail collectif qui a été fait et qui continue à être réalisé avec plein de gens. Et je n'ai pas mentionné tout le monde ici, donc vous avez une partie avec qui je travaille au LASTIG. Vous avez aussi l'équipe de Livio au laboratoire MAP du CNRS à Marseille. On a aussi travaillé dans les Gorillas avec le LIRIS, notamment avec Liming Chen. On travaille en continu aussi avec Florence Claveau des Archives nationales pour le côté standardisation et indexation en couplant avec les métadatas. Je n'ai pas cité tout le monde, notamment les partenaires applicatifs. Par exemple, on travaille beaucoup avec des historiens de l'Université Gustave Eiffel, le laboratoire ACP, des sociologues du LAVU à Nanterre et aussi France Télévisions récemment, qui s'est associé à nous pour des côtés médiation scientifique. Donc, dans le travail que je vais présenter ici, on s'intéresse à l'indexation et à la recherche par contenu. Le paradigme d'interrogation qu'on va utiliser, c'est le paradigme de la recherche par l'exemple. C'est-à-dire, j'ai en haut à droite une image que je donne en entrée à mon système. Je la décris par une méthode de description dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure. Ça me permet d'aller interroger un ensemble de collections qui sont décrites de la même façon et mon système me ramène, par ordre décroissant de similarité, les images qui sont ici. C'est le paradigme le plus classique, le plus répandu. Il pourrait paraître un petit peu bizarre de se dire « Oui, mais pour rechercher des images, j'ai besoin d'avoir une image en entrée. » Mais en réalité, c'est vraiment par rapport aux cas d'usage qu'on a, sur lesquels on a travaillé, c'est le paradigme le plus intéressant et finalement le plus utilisé. À travers cet exemple, vous observez qu'on a manifestement utilisé des descripteurs d'images qui sont capables de retrouver la même scène, puisqu'il s'agit du port de Marseille, à différentes périodes temporelles, avec donc différents points de vue, différents changements, avec des changements d'illumination. Tout ça pour vous dire qu'on s'intéresse au paradigme de la recherche par l'exemple. Au niveau de l'instance, le but n'est pas de retrouver des images qui montrent toutes les cathédrales gothiques de France, mais des images qui ramènent le même lieu ou le même monument que celui de la requête. Et vous voyez ici aussi un autre intérêt, c'est qu'en interrogeant une image qui provient des archives nationales, on est capable, si on met en commun les collections, au moins si on est capable d'accéder au contenu des collections, on ramène des images qui proviennent de fonds différents et de glames complètement différentes, sans passer par le biais des métadonnées, l'outil visuel étant le support commun d'analyse et de recherche. Évidemment, quand on fait ce genre de choses à travers ce matin, quel est le descripteur d'image qu'on va devoir utiliser ? La littérature de l'indexation d'images est extrêmement riche là-dessus. Quels sont les descripteurs qu'on va utiliser ? Donc, il faut commencer par choisir un descripteur sur étagère avant de se lancer pour voir ses faiblesses et ses avantages, avant de se lancer sur la proposition d'un autre. Alors, vous voyez que, par exemple, sur des collections iconographiques de la ville de Paris, dans des travaux relativement récents qu'on a fait avec un doctorant, Émile Blétry, on avait trouvé que c'était le descripteur AO avec la combinaison ASMK, qui est un descripteur extrêmement populaire de l'état de l'art, qui fonctionnait le mieux. Il y a toujours, évidemment, vous imaginez, cette différence entre ce qui est vendu sur l'article, sur le papier, avec des descripteurs qui ont été entraînés sur des bases d'images comme Google Landmark, entre autres. Et évidemment, il y a une grosse différence avec ce que vous obtenez comme résultat sur vos contenus à vous. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier constat à avoir. Donc ensuite, on a eu des travaux dans le cadre du projet Allegoria dans la thèse de Dimitri Gominski. On a essayé de prendre un descripteur. Eh bien, une façon de l'améliorer, ce descripteur, c'est tout simplement de proposer un nouveau jeu de données pour le fine-tuner, pour réentraîner sur les jeux de données qui nous intéressent. Donc, ça fait partie, ce doctorant, pendant sa thèse, pendant 6 mois, constituer un nouveau jeu de données suffisamment conséquent, pertinent par rapport aux objectifs du projet, de manière à réentraîner complètement un descripteur qui est là, un descripteur, le descripteur Delphes, qui est aussi un descripteur très, très connu de l'état de l'art. Ensuite, toujours ce même doctorant, il a fait plein de choses dans sa thèse. Il est aussi parti du principe, différemment, que bien on avait peu de données d'entraînement. Donc, il a aussi travaillé sur des méthodes de few-shot learning, donc d'apprentissage, à partir de peu d'exemples, pour pouvoir améliorer, là encore, un autre type de descripteur. Pour une autre, c'était une problématique un petit peu différente. Donc, vous voyez un petit peu le genre de choses sur laquelle on est amené à travailler. On commence par tester les descripteurs de l'état de l'art. Et ensuite, eh ben, soit on crée son propre benchmark pour améliorer ses descripteurs, soit on passe par des algorithmes de few-shot learning. Et puis, il y a aussi d'autres choses que je vais vous présenter juste après. Alors, juste, je vous montre quelques résultats de ce qu'on obtenait dans le projet avec justement les descripteurs qu'il a développés. Ici, vous avez, on a développé un moteur de recherche multimodal, donc il n'utilise pas que la modalité image, mais aussi les métadonnées qui sont à côté. Là, ce n'est pas le cas dans l'exemple, mais on peut aussi interroger par le biais de métadonnées. Donc, en entrée, j'ai une image volontairement choisie parce qu'elle n'a pas de métadonnées ici. Et le système, par ordre décroissant de similarité, retrouve ces images similaires. Alors, je vous ai montré un joli exemple qui montre que dans ce qui est retourné, les images retournées proviennent de Chalindré, en Haute-Marne, je ne sais pas si quelqu'un connaît, qui pourrait laisser penser que l'image qui est en entrée provient de cette ville-là. Donc, on imagine derrière, avec ces liens, tous les scénarios de propagation de métadonnées qu'on peut faire pour enrichir les collections, même si elles ne proviennent pas des mêmes institutions. Dans cet exemple-là, dans ce moteur-là, pardon, on peut cliquer sur ce lien-là, et en cliquant sur ce lien, ça nous envoie, à partir des informations de géolocalisation disponibles, ça nous envoie vers le géoportail version 3D, quand elle existe, de l'IGN, dans lequel on peut positionner la photographie. Si on a juste un toponyme ou une information assez peu précise, on peut se promener dans la zone et voir raffiner la géolocalisation, par exemple par les méthodes semi-automatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Un autre exemple ici, on ramène par ordre décroissant de similarité des images similaires. On voit qu'il y a pas mal de redondances. Ce sont des données de la photothèque IGN. Et là, par contre, on avait dans les images retournées plus d'informations sur la pose de l'image. Ce qui fait qu'en cliquant sur un des petits boutons ici, on peut positionner, donc avec l'outil open source iTunes, qui est la version, qui est le moteur 3D de visualisation de données IGN. On peut positionner plus finement la vue dans la scène. C'est une vue, j'ai plus en tête, des années 40-60, qui est superposée au géoportail, bien évidemment, actuel. Donc voilà, on peut se promener là-dedans. Donc ce qui était intéressant dans le projet, c'est qu'on pouvait interfacer le moteur de recherche avec le géoportail de manière de naviguer de l'un à l'autre selon le besoin. Donc un rapide exemple du cas d'usage, comment ça a été utilisé. Ça a été par exemple utilisé par les archives nationales pour suivre l'évolution d'une zone pendant la période de la reconstruction. Là encore avec l'exemple du port de Marseille, avec des collections, vous voyez, qui viennent de l'IGN, des archives nationales, du musée Nicéphore Niépce. Et en mettant en relation ces collections, voire en aide les conservateurs, les archivistes pour analyser, pour ce qui concerne tous les... témoignages. Alors, je vais vous montrer très rapidement différentes façons d'améliorer encore le re-ranking, d'améliorer la recherche d'images. Alors, on peut passer par des méthodes de re-ranking. J'ai du mal à traduire le mot parce que re-ranking traduit, ça donne réorganisation des réponses. Je trouve que ça ne sonne pas forcément extrêmement bien. Aussi, je vais vous montrer très rapidement qu'on peut utiliser un paradigme assez récent qui est le Compose Image Retrieval, dédié à la géolocalisation. J'ai mis Multimodal Representation en parenthèse parce qu'on a aussi beaucoup travaillé là-dessus, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler. Donc, qu'est-ce que j'appelle faire du re-ranking, de la réorganisation? Vous avez une image en haut à gauche, une image en entrée. Votre système vous ramène des images similaires. Et sur un sous-ensemble d'images similaires ramenées, les toutes premières, parce que c'est un processus, le re-ranking généralement coûteux, on va appliquer un processus qui va nous permettre de réordonner mieux, en tenant compte notamment de contraintes géométriques, de la base au moment de la recherche, parce que c'est coûteux. En général, ça implique de la géométrie, de l'estimation, de correspondance géométrique, c'est un peu plus coûteux. Alors ici, qui existe. Et nous, dans notre cas, très rapidement, on s'est intéressé à des méthodes basées sur de la diffusion à base de GNN, de Graph Neural Network, qui consiste à dire, en gros, le plus proche voisin de votre plus proche voisin. Si votre système ramène des images similaires, en vert, de la bonne catégorie, en rouge, la mauvaise catégorie. Et si celle de la bonne catégorie ramène aussi des images similaires, mais avec des méthodes GNN, on va réorganiser tout ça de manière à améliorer le reclassement des images. Donc ça, c'est des méthodes assez populaires qui sont très performantes. Qui a travaillé là-dessus, qui sur ce genre de méthode de l'état de l'art, et il a exploité d'autres modalités lorsqu'elles existaient dans la base de référence, en particulier de la modalité spatiale, on est à l'IGN, Notamment, il a utilisé, il a exploité dans les images retournées la structure 3D de la scène obtenue par Structure From Motion, on en a un petit peu parlé ce matin, ou alors par LIDAR, quand la base interrogée dispose aussi d'acquisition au LIDAR, comme c'est le cas quand vous faites du mobile mapping. Il a aussi utilisé les modalités de la métadonnée de position lorsqu'elle était disponible dans la base. Et sans rentrer dans les détails, donc il a amélioré la diffusion, la réorganisation, le re-ranking par diffusion en intégrant ce type d'informations spatiales 2D ou 3D. Évidemment, on augmente. On présentait en matière de mean average precision, de précision moyenne. On a 41% avec une recherche classique. Le fait de passer, d'utiliser de la diffusion, passe à 59, donc c'est vraiment une amélioration énorme. Et le fait, avec ces outils, les méthodes qu'il a proposées, de rajouter de la géométrie, puisque dans les datasets interrogés, cette géométrie était disponible, on augmente aussi la précision. Un petit résultat visuel, c'est forcément plus parlant. Sur la première ligne, à gauche, vous avez la requête. C'est cette image-là. Donc ça, c'est les images ramenées par ordre décroissant de similarité avec un descripteur de l'état de l'art classique. Et plus on augmente, plus on fait de la diffusion, plus on utilise l'information multimodale, les réponses retournées. Vous voyez, en gros, hein, en passant d'une ligne à l'autre, le nombre de cases vertes augmente et on arrive à la fin à retrouver des images de la même catégorie, ici la catégorie étant la rue de Lille à Paris. Ensuite, une deuxième façon de faire, et je vais parler, je vais aller assez vite, je crois que je suis assez en retard. Faire de l'image retrieval pour de la géolocalisation. Ici, la géolocalisation qu'on veut faire, donc, c'est trouver la position de l'image qui a été donnée en requête. Cette position, dans notre cas, c'est de l'estimation de pose 6D, comme je l'ai mentionné avant. Et ça consiste donc à retrouver dans le jeu de données de référence des images géolocalisées les plus proches visuellement. Et donc ensuite, le processus de géolocalisation de la requête va consister à exploiter les poses des cas plus proches d'images retournées pour estimer une nouvelle pose. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'en général, le CBIR, toutes les techniques de recherche par image sont généralement faites pour maximiser la similarité visuelle dans les images retournées. Et potentiellement, la configuration spatiale des images retournées n'est pas pertinente, n'est pas la plus pertinente pour estimer la pose. Généralement, plus les images retournées sont similaires, donc ça suppose qu'elles existent déjà dans le dataset, mais plus elles sont similaires, plus elles correspondent au même point de vue. Et donc, en général, le système peut être sujet à des poses alignées. Et en général, quand on a des poses alignées retournées, l'estimation de la pose de la requête n'est pas optimale. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et là, on a travaillé là-dessus dans le cas du projet Notre-Dame de Paris. On a utilisé le paradigme du Composed Image Retrieval. De la méthode CLIP que vous connaissez peut-être. On a une image en entrée, on enrichit avec un modifieur textuel, on l'enrichit avec une demande, ici pour le t-shirt, c'est « I want a similar one, but blue with different characters », et le système modifie le descripteur d'image pour amener des images qui correspondent à la demande à la fois visuelle et à la fois textuelle. Donc ça veut dire qu'au moment de l'apprentissage, on va tenir compte de contraintes, on va associer à l'image au texte, l'image et le texte, pour tenir compte de ces contraintes textuelles et modifier le descripteur visuel. Donc je vais très vite, il a utilisé ce genre de technique, cette fois-ci pour spécialiser, rendre les réponses qui soient, pour qu'elles soient le mieux distribuées spatialement, notamment en définissant des modifieurs qui sont relatifs à la position de l'image, position relative ou absolue, et puis là aussi changer les descripteurs parce que le descripteur utilisé dans le clip n'était pas du tout pertinent. quelques résultats. On va juste regarder les lignes. On a comparé plein de méthodes. Et en fait, je vais juste dire que ce qui est surligné en rouge montre que en étant capable de faire ça, donc de modifier le descripteur pour qu'il apprenne mieux, qu'il ramène des images plus favorables en termes de distribution de la pose, eh bien on augmente, ici c'est pas ce qui est présenté, ce sont les erreurs en termes de position et d'orientation, on diminue les erreurs de position et d'orientation lorsqu'on estime la pose de la requête à partir des images similaires retrouvées. Alors, les étapes suivantes, et je vais terminer là-dessus, on continue à travailler sur tous ces aspects-là en allant encore plus loin. Notamment un grand chantier qui nous occupe à l'IGN, c'est peut-être en avez-vous entendu parler, c'est la numérisation du territoire en LIDAR HD. Donc tout le territoire est en passe d'être fini, d'être numérisé en LIDAR HD. Vous avez un bel exemple toujours sur le port de Marseille. À gauche, vous avez des photographies de la photothèque de l'IGN et des archives nationales. Et l'idée, on a lancé par exemple une thèse là-dessus, c'est de se dire comment on retrouve ces images, ces photographies anciennes dans ce LIDAR. Donc on est en train de parler, d'interroger une base de LIDAR à partir d'images, donc à partir d'une modalité différente. C'est ce que j'ai appelé ici faire de l'alignement de modalités. On va se concentrer dans cette thèse sur les images et les nuages de points 3D. Mais dans le projet dans lequel je vais parler juste après, on considère aussi tout un tas d'autres types d'informations, comme les métadonnées qui sont disponibles. Et ça pose plein d'enjeux, bien évidemment, d'alignement de modalités, mais aussi du fait que le LIDAR, il est récent, les images, elles sont anciennes, donc il y a eu des transformations de la scène qui rendent finalement cet alignement difficile, surtout quand on passe par des méthodes globales. Ce travail se fait par le biais de trois projets qui viennent de commencer ou vont commencer. Le premier, c'est le projet ANR AGAP sur la découverte et l'investigation dans le patrimoine iconographique. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a fait, mais il y a un côté beaucoup plus médiation scientifique aussi. Et dans ce projet, on va travailler sur le liage, la spatialisation et la promotion donc, des contenus visuels. Un autre projet ANR est Astrid, cette fois-ci, qui va bientôt commencer sur la détection d'anomalies spatiales à large échelle. Et notamment, on va utiliser tout ou partie des outils que vous avez vus jusque-là pour faire du lien, de la spatialisation, et on va aller jusqu'à la vérification de l'information en étant capable, comme ça, de tisser de liens et de comparer les sources pour vérifier l'information, notamment en termes de géolocalisation. C'est un projet avec France Télévisions. Ils sont intéressés, à partir de leur collection de réseaux sociaux ou d'autres types de collections, être capables de vérifier la géolocalisation de la source qui est étudiée. Et puis un autre projet financé là par France 2030 sur le JNFT, jumeau numérique de la France et des territoires. Donc il y a un énorme truc qui vient d'être accepté. C'est l'État français qui a mandaté l'IGN, l'INRIA et le CEREMA pour construire un jumeau numérique national. Et donc ces travaux vont aussi être utilisés pour continuer à utiliser, pour documenter le territoire de manière patrimoniale, parce que c'est ce qui nous intéresse avec les gens avec qui je travaille, et aussi d'être capable de mettre à jour le jumeau numérique. Et j'ai presque terminé. Juste, je voulais vous reparler d'un événement annuel, un workshop international qu'on organise tous les ans. La 7e édition vient d'avoir lieu la semaine dernière. C'était à Dublin. L'année prochaine, ce sera à Rio. Donc, si vous avez des choses en humanité numérique, des outils de l'IA pour les humanités numériques, soyez les bienvenus et venez à Rio l'année prochaine. Le distanciel devrait être possible aussi. Et je vous remercie.
Merci beaucoup. Je passe le relais.
Merci encore, Valérie.